week-end extra avec Mathieu Beaumont, votre magazine du week-end.
S'ouvrait lors de la dernière semaine le procès d'un des criminels les plus connus des dernières années, des dernières décennies. Son nom est Joaquin Guzman Loera, connu sous le nom de El Chapo. Et son procès a lieu à Brooklyn, dans l'État de New York. Lui qui était à la tête du cartel de Sinaloa depuis de nombreuses années. Pour en parler, il est basé pour le quotidien Le Monde au Mexique. Frédéric Saliba est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Beaucoup de choses ont été dites sur El Chapo, sur qui il est réellement comme criminel, mais également la version romancée que l'on a pu voir dans une série présentée, entre autres, sur Netflix. Qui est le vrai El Chapo Guzman?
Oui, c'est un mythe. Alors, c'est vrai que c'est le sujet de ma dernière enquête. C'est-à-dire que son procès arrive, la justice américaine le présente comme le chef du cartel de Sinaloa, comme étant un PDG d'une multinationale de la drogue. Le cartel de Sinaloa est quand même présent dans plus de 50 pays au monde. Il a pris, justement, la main sur le trafic de cocaïne en provenance de Colombie. Après la mort de Pablo Escobar, c'est les cartels mexicains qui aujourd'hui gèrent le trafic de drogue, mais pas seulement de cocaïne, hein, de méthamphétamine, d'héroïne, de marijuana, sur tout le continent. Et évidemment, le cartel de Sinaloa est le plus puissant et il est présenté comme le Chapo Guzman est présenté comme le chef suprême de ce cartel. Et c'est vrai que quand on enquête sur le cartel de Sinaloa, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait exact, qu'un mythe a été créé par le gouvernement mexicain, mais aussi par l'agence antidrogue américaine, la DEA, pour personnaliser le mal. Le cartel de Sinaloa est une fédération de barons de la drogue. Mm-hmm. El Chapo Guzman n'est qu'un des chefs de ce cartel. Et d'ailleurs, pour preuve, depuis son arrestation, le cartel de Sinaloa continue d'être le plus puissant, même si cette arrestation a affecté un petit peu le commerce et a favorisé d'autres cartels. Le cartel de Sinaloa reste le plus puissant du Mexique et l'un des plus puissants au monde.
Et on parle quand même d'une lutte à finir au Mexique. 200 000 morts depuis une douzaine d'années maintenant liées aux narcotrafiquants.
Oui, bien plus, parce que ça date de 2001, la guerre entre les cartels. 2012, le gouvernement déploie des militaires dans la rue, et donc ça commence à être une sorte de bataille à trois bandes entre le gouvernement, des cartels et d'autres cartels. C'est vrai qu'on est à 200 000 morts depuis 12 ans, et que le Chapo Guzman a une grosse responsabilité dans ce conflit. C'est un homme qui a une soif de pouvoir très 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 importante, et qui a cherché une forme d'hégémonie au Mexique, donc qui a provoqué en effet un bain de sang. Il y a 200 000 morts, mais il y a aussi 40 000 disparus. Donc on pourrait être plus vers les 240 000, ce qui est quand même un nombre assez considérable.
On a parlé beaucoup dans son histoire de El Chapo Guzman que c'était quelqu'un qui avait énormément d'entrée au gouvernement mexicain, et que le gouvernement mexicain en quelque sorte le tolérait aussi en disant il va nous servir et si on le laisse aller, bien, il nous fournit des informations sur des bandes adverses. Quel est le rôle réel ou les liens qui ont été tissés entre le gouvernement mexicain et le cartel de Sinaloa?
Les autorités mexicaines comme les autorités américaines ont tendance à simplifier un petit peu le narcotrafic en se présentant contre des cartels qui seraient justement omnipotents et très puissants. En fait, quand on enquête, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de narcotrafic sans complicité politique. Et d'ailleurs, ces nombreuses sa cavale durant 13 ans, il a été en cavale durant 13 ans, El Chapo Guzman, au moment où Felipe Calderón déclarait la guerre au narcotrafic. Et bizarrement, son cartel a plutôt profité, en fait, de cette guerre. C'est le moment où il a atteint son apogée. Et c'est vrai que il n'y a pas de narcotrafic sans complicité politique. Jusqu'où va ces complicités politiques, c'est très difficile à savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il a des alliés haut placés. Et on le voit par rapport à ces deux évasions, par exemple, qui auraient été impossibles sans des complicités à haut niveau.
Est-ce qu'il pourrait en profiter dans son procès aux États-Unis pour révéler certaines de ces relations-là qui l'auraient permis, ou ça ne lui donnera rien, on ne s'attend pas à de grandes révélations?
On peut imaginer qu'il y aura des révélations, mais en même temps, sachant qu'il y a des complicités politiques des deux côtés de la frontière, on imagine en même temps difficilement le gouvernement américain de révéler que la DEA négocie avec les cartels mexicains. Donc on peut imaginer qu'il y aura des révélations en coulisses, ça c'est sans doute quasiment sûr, mais elles ne seront jamais diffusées en public.
On a vu lors de trames de films qui ont été faits sur lui, même de la série Netflix auquel je faisais référence tout à l'heure, Frédéric Saliba, que c'était quelqu'un qui a craint toute sa vie criminelle cette extradition vers les États-Unis. Est-ce que l'on sait comment il perçoit ça? Est-ce qu'il y a des informations qui ont émané dans le pays, à savoir qu'il considère sa vie terminée ou il a toujours espoir de retourner au Mexique un jour?
En plus, aux États-Unis, il a fait parvenir au tribunal et au juge spécialement une lettre où il déplore ses conditions d'incarcération. Il est quand même enfermé 23 heures par jour. Hein. Il est dans une cellule où il n'y a pas de fenêtre. Il est sous haute, très très haute sécurité. Et c'est vrai qu'on le décrit comme très déprimé. Les dernières news, il demandait à pouvoir embrasser sa femme, oui, qui va être présente lors de l'audience et le juge lui a refusé par mesure de sécurité. Donc c'est quelqu'un qui vit dans un isolement total, qui est très déprimé et qui en plus, selon ses avocats, commence à avoir une santé altérée et avoir certaines déficiences mentales. Alors c'est un peu paradoxal parce que c'est quelqu'un qui a toujours été décrit comme doté d'un coefficient intellectuel au-dessus de la moyenne et quelqu'un de très 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 égocentrique et très très puissant, très manipulateur. Aujourd'hui, il est très diminué et en effet, même si il a pu s'évader de deux prisons de haute sécurité au Mexique à deux reprises, ce qui est quand même un fait exceptionnel au Mexique, on sait très bien que dans la prison de Manhattan où il est aujourd'hui, c'est une des prisons les mieux protégées des États-Unis et donc on suppose que ça annonce le clap de fin de sa carrière.
Et comment c'est perçu chez vous, justement, au Mexique? Est-ce que ça passionne encore les gens, l'histoire de El Chapo Guzmán?
Ah, bien sûr. On parle même de Chapomania au Mexique.
Ah, oui.
Si vous allez sur les marchés, par exemple, vous avez des masques à l'effigie du Chapo, vous avez des t-shirts, certains restaurants font des menus avec son nom. Il y a des musiques, ce qu'on appelle les narco-corridos, qui racontent ses exploits. Non, le Chapo Guzmán, il faut comprendre qu'au Mexique, d'abord, il y a 43% de la population qui est pauvre. Le Chapo Guzmán vient de l'état de Sinaloa, qui est au nord du Mexique, qui est un état très très pauvre, et que c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, hein. Il a arrêté ses études en primaire, il est illettré, et il a réussi de manière absolument incroyable, et pour énormément de jeunes en manque d'opportunités, c'est un exemple. Et c'est justement tout l'aspect un peu pervers de la médiatisation de ce narcotrafiquant, c'est que, en effet, il suscite des passions. Autant des gens le condamnent ses actes criminels, autant des jeunes voient en lui un exemple à suivre pour sortir de la pauvreté.
Et c'est pour ça qu'on faisait beaucoup de parallèles entre lui et Pablo Escobar, parce que les histoires se ressemblent énormément, outre la fin que l'on connaît pour Pablo Escobar.
Exactement. El Chapo Guzmán, et d'ailleurs, c'est ce qui d'ailleurs nous fait penser qu'il a eu des appuis politiques, c'est qu'il est arrivé à survivre. Normalement, dans le narcotrafic, la durée de vie est quand même très très courte et ils finissent souvent avec une balle dans la tête, ce qui n'a pas été le cas du Chapo Guzmán. Et encore une fois, ces évasions spectaculaires, parce que sa dernière évasion, c'est quand même avec un tunnel d'un kilomètre et demi, doté d'une moto montée sur des rails, avec un système de ventilation très perfectionné. Et là, on parle de gros travaux, de chantiers publics qui paraissent aberrante, c'est aberrant de penser qu'on puisse construire un tunnel de cette taille sans que des gens au sein de la prison ou même des gens autour. Il faut savoir qu'à côté de la prison, il y a quand même une caserne de l'armée qui est née qu'à quelques centaines de mètres. Et on s'est aperçu avec la diffusion des images et le son que creuser ce tunnel faisait énormément de bruit. Donc on comprend bien qu'il y a eu une complicité, il y a eu une médiatisation, il y a eu une personnalisation du narcotrafic qui a été orchestrée, en tout cas par des gens haut placés au gouvernement mexicain et peut-être même du côté de la DEA.
Frédéric Saliba, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Merci, au revoir.
À très bientôt.
Bien sûr, nous suivrons la fin de ce procès de El Chapo Guzmán à New York. C'était Frédéric Saliba, qui est correspondant du quotidien Le Monde au Mexique.